Bonjour Nicolas Heredia.
Bonjour.
Merci pour votre disponibilité. Vous êtes auteur, metteur en scène, scénographe et comédien. Vos propositions sont pour le moins atypiques, on va en parler dans un instant. Mais auparavant, pour éclairer nos auditeurs, nos auditrices, racontez-nous votre parcours. Où et quand êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Quel type d'enfant étiez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à embrasser une carrière artistique?
Oula, c'est un vaste sujet. Alors, je suis né à Paris. J'ai grandi mes premières années à Paris et à côté de Paris. Ensuite, j'ai passé une partie de mon adolescence, une bonne partie de mon adolescence à La Réunion. Et puis, j'ai finalement atterri à Montpellier. Voilà, et aujourd'hui, je suis entre Montpellier et Paris, souvent aussi. Voilà, et après, pour le parcours artistique, alors j'ai commencé à faire du théâtre assez tôt, comme pas mal d'acteurs et d'actrices, je crois. J'ai commencé à 9 ans, je crois, dans un cours de théâtre, comme plein d'enfants. Et c'est devenu assez clair pour moi tout de suite que c'était ça que j'allais faire de ma vie, même. J'étais assez convaincu. Et puis très vite, après, je me suis passionné aussi. Enfin, il y avait d'autres influences que le théâtre, parce que j'étais assez passionné de cinéma par ailleurs. Donc j'étais abonné au magazine Première. Je classais les fiches de films chaque mois. Je connaissais par cœur les génériques de films. Des trucs où j'avais vraiment une passion aussi pour le cinéma. J'ai après fait des études, enfin au lycée, un bac cinéma. Et par ailleurs, j'ai aussi été pas mal traîné dans mon enfance, ma jeunesse, dans des expositions par une partie de ma famille, ma grand-mère notamment, qui me faisait parcourir toutes les expositions de Paris jusqu'à 3 par jour. Donc il y a une influence aussi beaucoup du côté des arts plastiques, des arts visuels, et ça, qui est quelque chose pour le coup qui se retrouve vraiment dans mon travail aujourd'hui, puisque c'est quand même des projets qui sont justement un peu à mi-chemin entre le spectacle vivant et les arts visuels. Donc voilà, pour le dire un peu rapidement, en tout cas le parcours, il est un peu celui-là. Et puis après, j'ai fait 2 ans d'école de théâtre, et après j'ai commencé à travailler assez rapidement dans le théâtre, en fait, assez jeune, après avoir monté aussi à 17 ans, donc assez jeune aussi, une première compagnie de théâtre étudiante, où là je commençais déjà à faire des mises en scène, en fait, avec pas grand chose, hein, ce qu'on avait sous la main. Mais en tout cas, il y a eu très vite cette envie aussi de pas seulement être acteur, mais d'être aussi metteur en scène.
Nicolas Heredia, le jeu, le théâtre, le spectacle vivant en général, ce sont des disciplines que l'on imagine pour s'évader, sortir de l'ordinaire. Et bien vous, au contraire, vous êtes attaché à l'ordinaire, qui est votre matière de création. Est-ce que l'origine du monde suffit à votre inspiration? Et je ne parle pas uniquement de l'œuvre de Courbet, hein, que vous avez déjà utilisée. Inutile d'aller imaginer de la science-fiction quand on peut s'inspirer de la vie quotidienne, c'est ça?
Oui, alors je crois que c'est effectivement, je crois que c'est un peu des imaginaires. Alors je sais pas pourquoi c'est ça qui m'intéresse, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est effectivement, l'ordinaire, c'est-à-dire que en fait, j'ai pas forcément besoin d'histoires romanesques pour être captivé par quelque chose. En fait, je crois que c'est juste ça. Et effectivement, et puis après, je crois que mon cerveau fonctionne pas tellement comme ça. Par exemple, en cours de cinéma, j'étais assez nul pour imaginer des scénarios, des histoires. J'ai pas un imaginaire qui est très narratif, à vrai dire. Donc, ce qui m'intéressait plutôt, et c'est probablement aussi quelque chose qui, mon regard est probablement aussi à cet endroit-là, défini aussi par les arts visuels, par la photographie, par d'autres formes d'art qui sont moins narratives. Et effectivement, l'ordinaire, bon, après, c'est vaste, parce que c'est pas une question de dire, de s'émerveiller des petites choses. Enfin, des fois, on peut un peu réduire aussi le travail à s'émerveiller des petites choses, et c'est pas uniquement s'émerveiller des petites choses, ce qui peut être un peu, des fois, c'est partir de l'observation de quelque chose qui, en effet, paraît relativement ordinaire. Mais en fait, si on creuse, n'importe quelle chose ordinaire peut se creuser et peut du coup dégager un sujet, une problématique, une pensée, etc. Donc par exemple, j'avais fait un spectacle sur ma grand-mère, parce que ça partait des messages de répondeurs que ma grand-mère me laissait. Donc j'avais 3 à 4 messages par jour pour me dire des choses absolument sans intérêt, c'est-à-dire je sais pas quoi, le prix du kilo de poireaux au marché, ou je sais pas qui, la reine de je sais pas qui avait divorcé divorcer du prince de je sais pas quoi, enfin, je veux dire, on s'en fout. Mais j'avais quand même ces messages vraiment sans intérêt tous les jours sur mon répondeur. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ça racontait quand même autre chose que juste ça. C'est-à-dire que ça racontait aussi qu'est-ce que c'est que la vie d'une personne âgée qui est tout à coup sortie, qui est un peu à part de la société et qui se retrouve dans un ennui profond et à appeler tous les gens autour d'elle 4 fois par jour pour leur raconter des choses sans intérêt. Donc en fait, l'ordinaire m'intéresse à partir du moment où il problématise aussi un peu un sujet ou quelque chose. Sinon, l'ordinaire pour l'ordinaire m'intéresse moins. Mais en effet, le point d'entrée est souvent en fait quelque chose aussi que tout le monde a autour de soi. C'est-à-dire que c'est aussi lié au fait que j'essaie de trouver des sujets qui peuvent, que tout le monde a autour de soi, que dans lesquels tout le monde peut se projeter. Tout le monde a une grand-mère, tout le monde, même, je sais pas, tous les spectacles que je fais sont, en tout cas, je dis pas que tout le monde y adhère ou que tout le monde s'y retrouve, mais que chacun puisse s'y projeter quand même, oui. Et voilà, donc ça, c'est aussi lié à ça, je pense.
Quel est le prix du poireau aujourd'hui, Nicolas?
Ben, je ne sais plus, du coup, ma grand-mère n'étant plus là.
Alors, votre travail, il s'inscrit dans le temps. Hein. Vous développez avec la vaste entreprise depuis bientôt 20 ans. Ça a démarré en 2007. Différents projets au croisement des arts vivants, visuels ou performatifs. Et vous composez au fil des années un ensemble de pièces qui se répondent et se nourrissent. Vous parliez de cinéma tout à l'heure. Est-ce qu'à l'instar d'un Tarantino, par exemple, vous avez une vision globale, exhaustive de votre œuvre? Parce que vous dites vous-même que vos méthodes d'écriture sont en permanence redécouvertes et chahutées.
Oui, alors Tarantino, j'avoue qu'on m'avait jamais comparé à Tarantino, c'est quand même très très éloigné, mais effectivement sur ce point-là, en tout cas, oui, moi je j'aime bien envisager les créations, enfin les différents projets comme un archipel plutôt que comme une succession de spectacles. En fait, tout pousse un peu dans le système de création à faire un spectacle, puis ensuite un autre, puis un spectacle tourne 2 ans, puis après on le relègue et on en fait un autre qui va tourner pendant 2 ans, et puis après ce sera le suivant. Et moi, je suis quand même très attaché au fait que les projets communiquent entre eux, mais parce que de fait, ils creusent souvent un peu les mêmes thématiques, il y a des sujets très communs entre les spectacles, même s'ils vont prendre des formes extrêmement différentes, mais les sujets sont souvent les mêmes, et je crois qu'il y a un plaisir particulier pour le spectateur, la spectatrice, à les découvrir, à découvrir un ensemble, parce que je trouve que les projets font d'autant plus sens quand on les découvre pour l'ensemble qu'ils sont, et c'est vrai pour moi aussi en tant que lecteur. J'aime lire les livres, enfin, j'aime lire plusieurs livres d'un même auteur, d'une même autrice, pareil pour les films, pareil pour les spectacles. Enfin, il y a quand même une saveur particulière à mettre en perspective, à voir le déploiement d'un parcours artistique, et donc du coup on s'attache effectivement avec la compagnie à ce que les projets ne reste au répertoire, qu'on continue de les tourner concomitamment. Donc là, il y a 5 spectacles qui tournent en même temps, et effectivement des fois ils sont programmés sur 2 saisons dans un théâtre, ou sur 3 saisons, ou parfois 3 spectacles dans la même saison, et ça donne un aperçu et une saveur, je pense, particulière au travail qu'on fait, oui.
D'après Eve Beauvalet, qui est journaliste à Libération, vous initiez, Nicolas Heredia, un projet international de salubrité publique, Ne rien glander. Alors, est-ce que vous nous invitez réellement à ne rien glander ou à mieux utiliser notre temps si précieux?
Alors, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y avait des sujets très récurrents dans les spectacles. Alors, la question du temps est vraiment un sujet très, très, très présent dans tous les spectacles. Et pour donc le dernier projet en date, ce qui s'appelle donc la Fondation du Rien, le principe est donc de proposer aux gens de s'inscrire à une activité pour le jour et l'heure de son choix, en ayant la garantie que cette activité sera finalement annulée et que donc ils pourront jouir d'une heure de temps libre. Voilà, donc c'est effectivement un petit jeu de l'esprit. Donc c'est toujours aussi, on pourrait parler aussi de l'influence de la philosophie sur certains projets, voilà, avec lesquels j'aime bien jouer, puisqu'il s'agit quand même aussi de jeu, qui est une question, qui est aussi quelque chose qui est très présent dans les projets, la question du jeu, du ludique, de comment est-ce qu'on met le spectateur, la spectatrice en état de jouer, c'est-à-dire en état actif. Et la Fondation du Rien, donc, prend une forme très particulière puisque c'est à la fois un site internet, donc sur lequel on peut aller, c'est fondationdurien.org, et donc là commence un petit parcours, voilà, où on peut s'inscrire, choisir son activité, donc il y a déjà tout un catalogue qui est déjà une petite aventure en soi, et puis on choisit son activité, et puis une fois qu'on s'est inscrit, on reçoit son billet PDF dans sa boîte mail pour son activité, etc. Et donc après, je mets un peu dans les mains des gens, bah voilà, après c'est à eux de jouer en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire de ce temps libéré. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont vraiment ne rien faire? Mais qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire? Et puis qu'est-ce que ça raconte à chacun et à chacune de son propre rapport au temps? Et du coup, on propose aussi aux personnes de nous écrire ensuite pour nous raconter comment ça s'est passé pour elles, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, comment voilà quelle a été la façon de pour chacune et chacun de traverser ce temps libre. Et du coup, dans ces témoignages qu'on reçoit et qui sont aussi sur le site, hein, que tout le monde peut lire, ça raconte effectivement quelque chose de ce sujet-là, qui est un sujet quand même majeur, puisque, enfin, en tout cas, qui est un sujet majeur, la question de l'accélération du temps aujourd'hui, qui est présent dans le travail, évidemment, mais qui est présent aussi dans la vie privée. Il y a des sociologues qui parlent de famine temporelle, enfin, c'est des histoires, ça prend des proportions quand même assez folles, et pareil, on y est tous confrontés. On s'en rend compte là, quelquefois un peu notre âge et nos contextes. Et donc voilà, c'était une façon de évidemment un peu par l'absurde de confronter, de chercher ensemble ce que ça veut dire cette question du temps et pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'en manquer et qu'est-ce qu'on en ferait si on en avait plus. Enfin, c'est des questions très vastes et qu'on renvoie un peu aux gens, quoi, pour voir ce qui va se produire, quoi.
Et vous nous proposerez donc ce riche programme d'activités annulées, des moments à passer au détriment du reste, entre le 10 et le 13 avril avec la vaste entreprise à Château-Gontier sur Mayenne. Alors vous le rappelez dans les textes sur votre site, chaque heure que nous vivons est malheureusement une heure qui ne reviendra pas. Est-ce que c'est pas une manière introductive de dramatiser la situation pour mieux ensuite nous débarrasser de nos angoisses?
Oui, probablement. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai quand même un rapport personnel très 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 complexe au temps, relativement angoissé. Enfin, toute proportion gardée, je vis pas trop mal, mais c'est sûr que la question du temps me paraît être. Il y en a, je sais pas, leur sujet c'est l'amour, d'autres c'est je sais pas le l'argent, d'autres c'est que sais-je. Moi, c'est vrai que c'est quand même le temps. Et effectivement, là, la phrase que vous citez, c'est le texte de présentation de Anne Paraté, donc qu'on joue aussi à Château-Gontier, et qui est donc un spectacle qui se propose de prendre la mesure de tout ce que vous ratez pendant que vous assistez à ce spectacle. Donc, pareil, pour le coup, effectivement, c'est la question de ce qu'on a peur de ce qu'on a peur de rater, c'est vraiment des syndromes anxieux qui sont théorisés, hein, la question du FOMO, fear of missing out, qui est la question de passer la peur de passer à côté de quelque chose, ou le FOBO, qui est le fear of better options, donc la peur de passer à côté de quelque chose de potentiellement mieux. Et donc c'est quand même des questions folles, quoi, c'est des questions folles, et en même temps qui disent aussi au-delà de ça, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait de nos vies, en fait, et comment est-ce qu'on est, quel choix on fait dans nos vies. On fait forcément un choix au détriment d'un autre. Donc ça vaut pour une soirée où on dit, ah ben, je vais aller à cette soirée-là plutôt qu'à celle-là, ou je sais pas, à ce réveillon-là plutôt qu'à ce réveillon-là, ou aller voir ce film-là plutôt qu'un autre. Et en même temps, si on développe à l'échelle de la vie, c'est ben, pourquoi je vis ici et pourquoi je vis pas dans une autre ville ou dans un autre pays? Pourquoi est-ce que je vis avec cette personne et pas avec une autre? Enfin, c'est vertigineux, en fait. Et c'est des questions, évidemment, que tout le monde se pose. Donc, ce spectacle-là, à ne pas rater, était aussi une question, c'était l'idée était quand même d'explorer ces questions-là, qui me semblent aussi, assez vertigineuses et assez universellement partagées.
Le terrain de jeu de votre écriture, Nicolas Heredia, c'est l'espace public, ce sont les territoires numériques. Les territoires numériques ne peuvent pas être, d'après vous, considérés comme des espaces publics parce qu'ils n'ont rien de public. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas public dans la mesure où tout le monde peut y accéder, de gré ou de force d'ailleurs?
Moi, ce qui m'intéressait d'envisager le numérique comme un espace public, c'était précisément pour cette question-là, c'est-à-dire que c'est des endroits de rencontre, de croisement, tout le monde peut y accéder, en effet. Après, ils sont pas publics en ça que c'est quand même des espaces privés. Je vais pas me lancer dans un examen de ce qu'est Internet et des données qu'on collecte et de rien n'est gratuit, alors que ça a l'air de l'être, etc. Donc c'est pas des c'est pas des espaces publics, c'est pas des espaces publics parce qu'ils, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas tout à fait de l'espace public au sens où c'est quand même du privé. Mais en tout cas, ils ont des qualités communes, des spécificités effectivement communes avec l'espace public puisque c'est effectivement accessible à tous et que des gens s'y croisent, s'y rencontrent, s'y débattent, s'y engueulent, s'y agressent parfois, découvrent, voilà. Donc il y a cette question-là, effectivement, parce que je travaille depuis longtemps dans l'espace public et que ça pose évidemment tout un tas de questions très larges, esthétiques, mais aussi politiques, évidemment. Et que cette question-là, ça faisait longtemps que j'avais envie de me poser la question de voir comment par le numérique on peut aussi toucher plus de personnes, qui est encore un autre sujet, mais c'est aussi une des qualités de l'espace public, c'est qu'on touche aussi plus de personnes souvent que dans les salles de théâtre ou dans les centres d'art dans lesquels on joue aussi. Et donc aussi pour cette question-là, effectivement, la Fondation du Rien, parce que n'importe qui peut y accéder de n'importe où dans le monde via le site internet, effectivement, on se retrouve à avoir tous les jours des gens qui s'inscrivent à des activités annulées et qui viennent des quatre coins de la France ou d'autres pays même. Et que ça, c'est aussi une façon de partager un travail artistique de façon plus, voilà, c'est gratuit. Enfin, c'est des sujets aussi qui m'intéressent, qu'il y ait aussi des propositions qui puissent s'adresser vraiment à tout le monde, partout, de façon assez large. Voilà. Ce qui n'empêche pas que j'aime aussi jouer dans des théâtres ou dans des centres d'art, mais ça me semble être complémentaire. En tout cas, j'ai besoin aussi de me dire que le travail, il peut circuler au-delà des habitués des lieux culturels.
Et vous parliez de politique à l'instant, votre approche politique du temps, elle vous amène à penser que la logique capitalistique nous a complètement contaminés. Mais quelle serait votre solution universelle au-delà, évidemment, de vos performances artistiques?
S'il y avait une solution, la solution que je propose, c'est vraiment c'est la Fondation du Rien. Ça me semble être vraiment une bonne pierre à l'édifice. Non, blague à part, j'ai pas de solution, évidemment. Je constate, comme tout le monde, que oui, après, je n'invente pas, hein. C'est juste que je suis pas ni chercheur, ni philosophe, mais, donc il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur ce sujet, mais force est de constater que, en effet, on essaye d'optimiser nos journées, d'optimiser notre temps, déjà c'est fou comme mot en fait, d'optimiser notre temps de vie, c'est du vocabulaire et des logiques capitalistes littéralement, et c'est le fondement du truc quoi, c'est donc ça nous est donc on a optimisé le temps de travail, on a optimisé les rendements du travail et tout ça, et puis évidemment on finit par optimiser nos vies privées, nos vies intimes, notre temps privé, notre temps intime. Donc oui, moi ça, je trouve ça saisissant. Alors évidemment j'ai pas de réponse et globalement j'ai des réponses à pas grand chose, mais parce que voilà, c'est pas mon boulot. Mais par contre effectivement on essaye en tout cas d'agiter ces questions là, de les rendre partageables avec souvent le prisme de l'humour ou d'une entrée esthétique, une entrée artistique pour poser un regard sur ces questions-là. Et puis après, chacun est libre de s'en emparer. Quand on assiste à un spectacle, on entend bien ce qu'on veut entendre et on voit bien ce qu'on veut voir. Enfin, après, des gens attrapent la proposition à des endroits très, très, très intellectuels, très cérébraux, d'autres à des endroits beaucoup plus émotionnels. Donc après, c'est ça qui est beau. C'est que chacun va après recevoir à son endroit la proposition.
Et j'ai lu quelques témoignages des utilisateurs qui s'étaient inscrits à une activité, qui ont reçu évidemment le mail d'annulation, puis finalement utilisé leur temps libre pour faire autre chose. Quels sont les témoignages qui vous ont le plus marqué, touché?
Il y en a beaucoup que je trouve super. Globalement, je suis assez épaté par la qualité des témoignages qu'on reçoit. Il y a des choses très belles. Là je pense à un parce que pour le coup je l'ai trouvé assez dingue. C'est une personne qui est donc une jeune étudiante qui nous raconte qu'elle a profité de ce temps-là pour réviser ses partiels. Donc j'ai trouvé ça très drôle mais vraiment fondamentalement effrayant. Et voilà, je me suis dit, ah, tiens, ça dit vraiment quelque chose quand même, ça va plus loin que ce que je pensais, je crois.
Si vous n'avez besoin de rien ou de pas grand-chose, vous avez au moins besoin de temps. La Fondation du Rien vous en fabrique à Château-Gontier, donc du 10 au 13 avril. Dernière question, Nicolas Heredia. Vous recevez un mail d'annulation de la vie. Il ne vous reste qu'une journée à vivre. Comment occuperiez-vous vos dernières 24 heures ?
C'est terrible comme question. Ça veut dire que j'étais angoissé. Vous voulez en rajouter, en fait. Qu'est-ce que je fais de mes dernières 24 heures ? Ben, comme tout le monde, j'imagine, je les passe avec mes proches et voilà. Et quand même, je m'inscris à une activité annulée à un moment sur une heure, quoi. Sur 24 heures, j'en garde 23 avec mes proches et une quand même pour une activité annulée pour avoir vraiment un peu le temps de rien faire avant de mourir.
Merci Nicolas Heredia. Je rappelle que vous êtes auteur, metteur en scène, scénographe et comédien et que vous serez avec la vaste entreprise et la Fondation du Rien à Château-Gontier du 10 au 13 avril. Merci Nicolas.
Merci.